الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الليلة ليلة 27 من شهر ربيع الأول عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجلسة التي نسأل الله تعالى أن يباركنا فيها، نقرأ شيئا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام نافع جدا في باب ذهاب الهم والغم والحزن، تعليقا على حديث رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي سنقرأه بعد قليل إن شاء الله تعالى. En cette soirée du samedi 23 novembre 2019, nous n'allons pas suivre le cours habituel, à savoir l'étude du livre intitulé Fadlul Islam, les mérites de l'islam, mais plutôt nous allons lire un passage d'un livre écrit par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah intitulé Al-Fawa'id, livre dont nous avons déjà lu un passage il y a quelque temps de cela, un livre rempli de science et de leçons utiles et bénéfiques. Nous lirons inshallah les annotations qu'a donné l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique qui est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah d'après le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré. Ce hadith est dans le sujet de la dissipation de la tristesse, des soucis et de l'affliction. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit fi al-musnad wa sahih Abi Hatim من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو سميت به أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. Le hadith suivant est rapporté par l'imam Ahmad et authentifié. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: il n'est pas un serviteur qui soit touché par une affliction ou tristesse et qui dit: ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mon toupet est dans ta main. Le toupet, c'est le front. Mon toupet est dans ta main. Ton jugement est passé sur moi. Justice est ton décret me concernant. Je t'implore donc, par tous les noms qui sont les tiens, ceux par lesquels tu t'es nommé, que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures. Ici en arabe, je vois « أَوْسَمَّيْتَ بِهِ أَحَدًا وَهَذَا خَطَأ أَوْ عَلَّمْتَ. Il est dit en arabe « ou ceux par lesquels tu as nommé une de tes créatures ». Non, les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala sont les siens. C'est donc une faute de frappe. Ce qui est voulu, c'est le verbe « عَلَّمْتَ ». C'est ça qui est connu dans le hadith. « Ou ceux que tu as enseigné à l'une de tes créatures. » Ou encore « ceux que tu as gardés auprès de toi dans la science de l'invisible. Que tu fasses du Coran la rivière de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la disparition de mes afflictions et soucis. Sans qu'Allah ne dissipe ses afflictions et soucis et lui mette à la place la joie. Les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit au messager d'Allah, devons-nous les apprendre? C'est-à-dire ces quelques mots. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit alors, oui, il incombe à toute personne entendant ces mots de les apprendre. Je vous dis donc, comme a dit le prophète, alayhi salatu wa sallam, il vous incombe, mes frères, il nous incombe, mes frères, d'apprendre ces mots. Et si vous ne savez pas où se trouve cette invocation, elle est facilement trouvable dans les livres de dhikr, les livres de adhkar, d'invocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tels que Sahih al-Kalim al-Tayyib de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Je pense qu'elle est facilement trouvable également dans le livre Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, qui est un livre très bénéfique, bien que certains récits ne sont pas authentiques, mais dans l'ensemble il est très bénéfique, ou encore dans le livre Sahih al-Adhkar, les invocations authentiques, ou dans Al-Wabil al-Sayyib de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Quoi qu'il en soit, ce récit est très important comme vous allez le voir. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية. Ce hadith immense comprend la connaissance, le tawhid et la servitude. Dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ces quelques lignes sont remplies de tawhid, de servitude et de connaissance. Mes frères, si vous n'avez pas de problème de santé, approchez-vous. Approchez-vous. Fadal, viens. Si vous avez un problème, restez à votre place. Nul grief.
منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك.
Premièrement, dans ce récit, celui qui invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, débute son invocation en reconnaissant qu'il est le serviteur d'Allah. Ô Allah, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante. Il reconnaît qu'il est l'esclave d'Allah et qu'il est l'enfant d'un esclave et d'une esclave, car Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a créés que pour l'adorer. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et nous sommes tous des faibles serviteurs, esclaves d'Allah, qu'on le veuille ou non. Nous sommes assujettis à sa domination, à sa seigneurie, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, وَهَذَا يَتَنَاوَلُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ إِلَىٰ أَبَوَيْهِ آدَمَ وَحَوَّىٰ. C'est quelques mots entendent tous ceux qui sont au-dessus de lui parmi ses ascendants, que ce soit les pères, grands-pères et arrière-grands-pères, mère, grand-mère et arrière-grand-mère, et cela, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, jusqu'à Adam et son épouse Hawa, les deux premiers êtres humains. Ainsi, dans ce hadith, on l'on reconnaît être des esclaves d'Allah, fils depuis nos parents jusqu'à Adam, d'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه واعتراف بأنه مملوك وآباؤه مماليكه وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك.
Et dans ces quelques mots, il y a des notions importantes, notamment le fait de vanter Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître que nous sommes dans sa possession, nous, nos parents et nos ancêtres. Et ainsi, le serviteur n'a d'autre porte vers laquelle il doit se diriger que celle de son maître, par excellence, celui qui détient la grâce et la bienfaisance. il sait aussi ce serviteur que si son seigneur qui le possède le délaisse un seul instant, il périra. Et alors, personne ne pourra ni l'abriter, ni le réconforter. Bal yadi'u a'zamu dai'a. Il sera totalement perdu. Fatahta hadha al-i'tiraf anna la ghina anna anni la ghina bi 'anka tarfat 'ayn. Il y a derrière ces paroles le fait de reconnaître que l'on ne peut aucunement se passer d'Allah Azza wa Jal, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Comme l'a dit le prophète alayhi salat wa salam dans le récit, وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ. Et ne me laisse pas m'en remettre à moi-même, à ma personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Car si Allah nous laisse nous en remettre à nous-mêmes, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil, alors c'est la perte pour nous. وَلَيْسَ لِي مَنْ أَعُوذُ بِهِ وَأَلُوذُ بِهِ غَيْرُ سَيِّدِ الَّذِي أَنَا عَبْدُهُ. Et je reconnais, وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, qu'il n'y a en dehors de lui personne chez qui chercher refuge, en dehors de mon maître dont je suis le serviteur. وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ الْاِعْتِرَافِ بِأَنَّهُ مَرْبُوبٌ مُدَبَّرٌ مَأْمُورٌ مُنْهَى. Il y a aussi la reconnaissance ou la connaissance que le serviteur est assujetti à la seigneurie d'Allah, c'est-à-dire il est sous la seigneurie d'Allah. Allah en fait donc ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il est totalement géré par Allah. Il est commandé et il se voit interdit de choses par Allah, subhanahu wa ta'ala. إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ الْعُبُودِيَّةِ لَا بِحُكْمِ الْإِخْتِيَارِ لِنَفْسِهِ. La conduite de ce serviteur est en réalité une conduite basée sur la servitude pure. Il est un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas une conduite qui vient de son choix. Il ne choisit pas, mais plutôt il est un esclave, alors il se comporte en esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَيْسَ هَذَا شَأْنَ الْعَبْدِ بَلْ شَأْنَ الْمَمْلُوكِ وَالْأَحْرَارِ وَأَمَّا الْعَبِيدِ فَتَصَرُّفُهُمْ عَلَى مَحْضِ الْعُبُودِيَّةِ. Ceux qui agissent de par leur choix ne sont en réalité que les gens dans cette vie d'ici-bas qui peuvent être des servants ou des gens libres. Quant aux servants d'Allah, aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute leur conduite est basée sur la servitude à Allah. فَهَاُولَئِ عَبِيدُ الطَّاعَ الْمُضَافُونَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. Ceux-là sont les serviteurs d'Allah appliquant l'obéissance dont Allah Azza wa Jal a parlé quand il les a rattachés à lui, en disant dans le sens du verset, il s'adressait à Iblis, « Certes, mes serviteurs, tu n'as aucune emprise sur eux. » Akhi, viens, rapproche-toi. Tu n'as aucune emprise sur eux. وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Et dans l'autre verset, d'après le sens rapproché, et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent modestement sur terre. ومن عداهم عبيد القهر والربوبية فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه. Donc nous venons de parler des vrais serviteurs d'Allah, Azza wa Jal, ceux qui sont, de par leur plein gré, adorateurs d'Allah. Il y a d'autres serviteurs d'Allah, Azza wa Jal, qui eux n'ont un lien qu'avec la seigneurie et la possession d'Allah. C'est-à-dire qu'ils sont les esclaves d'Allah dans le sens où ils dépendent du choix d'Allah, du décret d'Allah, de la volonté d'Allah, Azza wa Jal, notamment de leur donner ou non la subsistance, de les guérir ou non. Dans ce sens-là, ils sont aussi des esclaves d'Allah. Mais ils ne sont pas des esclaves de plein gré comme le sont les monothéistes, Ahlul Tawhid, ceux qui se font esclaves d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ici, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des autres qui ont été aussi décrits comme serviteurs d'Allah, c'est-à-dire, ils ne sont pas indépendants d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne peuvent s'en passer, ne serait-ce que de sa subsistance qu'il leur attribue subhanahu wa ta'ala. À l'image du fait d'annexer une maison ou d'attribuer une maison à son possesseur. Et lorsque, donc Ibn al-Qayyim rahimallah nous donne deux exemples pour nous montrer la différence entre ceux qui sont serviteurs d'Allah de bon gré et les autres qui sont serviteurs d'Allah car ils sont dépendants de la seigneurie d'Allah. Ceux qui sont dépendants de la seigneurie d'Allah mais qui ne manifestent pas une servitude de bon gré, ils sont les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, comme une maison appartient à son possesseur. Ceux qui sont les serviteurs d'Allah de bon gré, les gens du Tawhid, ils sont les serviteurs d'Allah comme la maison d'Allah où se trouve la Kaaba appartient à Allah. Elle a beaucoup plus de valeur chez Allah
subhanahu wa ta'ala. وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه.
De même, quand Allah Azza wa Jal s'attribue ou rattache à lui des choses, subhanahu wa ta'ala, comme par exemple la chamelle dont il a parlé subhanahu wa ta'ala dans le peuple de Thamoud. هذه ناقة الله. Celle-ci est la chamelle d'Allah. Nous savons tous que toutes les chamelles sont à lui, subhanahu wa ta'ala. Mais le fait d'avoir précisé que celle-ci est à Allah, azza wa jal, c'est pour en montrer l'importance et ce qu'elle représente chez lui. Tout comme le fait qu'il rattache le paradis à lui, jannati, on le retrouve, ce terme-là, mon paradis. Wa idafati ubudiyati rasulihi ilayhi. Tout comme il rattache la servitude manifestée par son messager pour lui.
بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة الآية.
Dans le sens du verset, et si vous êtes dans un quelconque doute quant à ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, ici notre serviteur est le prophète عليه الصلاة والسلام, et c'est le serviteur de bon gré. Également quand il dit سبحان الذي أسرى بعبده, exempt de tout défaut ou de toute imperfection, soit celui qui, de nuit, a fait voyager son serviteur.
Wa innahu lamma qama abdullah yad'u.
Également dans Suratul Jin, quand Allah Azza wa Jal nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et lorsque le serviteur d'Allah s'est tenu debout à l'invoquer, le serviteur d'Allah, il a rattaché à lui le serviteur. La servitude dont il parle ici est celle du monothéiste qui se fait serviteur d'Allah, pas celle de celui qui n'est pas croyant, mais qui ne peut pas être autre chose qu'un serviteur d'Allah car il est dépendant d'Allah, Azza wa Jal.
Wa fi at-tahqiq bi ma'na qawli inni 'abduk iltizam 'ubudiyyatihi min adh-dhull wal-khudu' wal-inaba.
Et lorsque l'on dit « Oh Allah, je suis ton serviteur ou ton esclave », il y a le fait de reconnaître constamment et d'entretenir cela, que tu es un serviteur d'Allah qui s'humilie devant lui et qui revient à lui.
« Wa imtithalu amri sayyidihi wa jitinabu nahye wa dawamu liftiqar ilayhi wa laja'i ilayhi wa listi'anati bih wa tawakkuli alayhi. »
Également, dans cette parole, inni abduk, je suis ton serviteur, il y a le fait que l'esclave reconnaisse son maître, il reconnaît ses ordres et ses interdits, il se sent constamment dans le besoin de lui, si bien qu'il l'implore, lui demandant son aide, plaçant en lui sa confiance.
Wa'iyad al-abdi bihi, wa'iyad al-abdi bihi, wa'liyadhu bihi.
Et le serviteur sait que sa protection et son refuge n'est que chez lui. Et le fait aussi que son cœur ne s'attache à nul autre que lui pour l'amour, l'espoir et la crainte. وفيه أيضا il y a aussi dans ces paroles أني عبد من جميع الوجوه le fait que je sois un serviteur d'Allah de tous les points de vue صغيرا وكبيرا حيا وميتا مطيعا وعاصيا معافا ومبتلا بالروح والقلب واللسان والجوارح الله أكبر ابن القيم رحمه الله nous dit dans tous les points de vue que je sois petit grand vivant, mort, obéissant, désobéissant, que je sois préservé ou éprouvé, je suis serviteur d'Allah de par mon âme, mon cœur, ma langue et mes membres. وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك. Il y a aussi dans cette parole أنا عبدك, je suis ton serviteur, la reconnaissance que tous les biens que je possède, ainsi que ma personne, sont en réalité à toi. فَإِنَّ الْعَبْدَ وَمَا يَمْلِكُ لِسَيِّدِهِ car le serviteur et ce qu'il possède appartiennent au maître. وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي مَنَنْتَ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ نِعْمَةٍ فَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ إِنْعَامِكَ عَلَى عَبْدِكَ il y a également le fait que tout ce par quoi, ô Allah, tu m'as comblé, eh bien ce sont tes bienfaits par lesquels tu combles tes serviteurs. وَفِيهِ أَيْضًا il y a également, toujours dans la parole, إِنِّي عَبْدُكْ je suis ton serviteur. Il y a également, أَنِّي لَا أَتَصَرَّفُ فِي مَا خَوَّلْتَنِي مِنْ مَالِي وَنَفْسِي إِلَّا بِأَمْرِكْ كَمَا لَا يَتَصَرَّفُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ le fait que tout ce que tu m'as donné comme bien et comme bienfait en moi-même, ma façon d'agir avec ces choses n'est en réalité qu'en conformité avec tes ordres. Allah Azza wa Jal t'a donné les biens que tu possèdes, l'argent que tu as. Cet argent, tu ne peux pas l'utiliser comme bon te semble. Tu dois l'utiliser dans l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas le dépenser dans ce qui lui déplaît. C'est ainsi que se conduit le serviteur envers son maître. وَأَنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا également le fait que je ne possède pour ma personne ni nuisance, ni profit, ni mort, ni vie, ni résurrection. فَإِنْ صَحَّ لَهُ شُهُودُ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ إِنِّي عَبْدُكَ حَقِيقَةً si la personne qui prononce ce mot, je suis ton serviteur, إِنِّي عَبْدُكَ garde à l'esprit tout ce qui vient d'être dit, alors elle aura réellement dit cette parole. Elle aura vécu la profondeur de cette parole, à savoir « Inni abduk »« Je suis ton serviteur ». Et sachez, chers frères, que les invocations et les formules de dhikr sont bénéfiques et utiles proportionnellement à la compréhension et la connaissance des sens que nous avons de ces paroles. Plus nous les connaissons, plus nous les vivons lorsque nous les prononçons, et plus elles nous apportent de l'effet. Moins nous les connaissons, moins elles apportent de l'effet. Ainsi, lorsque la personne invoque Allah et ne voit pas d'effet sur elle, évoque le nom d'Allah sans pour autant voir d'effet sur elle, demande à Allah sans pour autant voir d'effet, ce n'est pas parce que Allah ne donne pas, subhanahu wa ta'ala, ou est incapable, mais c'est parce qu'il y a une défaillance dans la demande de la personne. C'est de là que vient le problème. Pour cela, des fois, il peut arriver qu'une personne ait obtenu quelque chose après avoir sollicité Allah, Azza wa Jal. Elle dira alors, Subhanallah, j'ai demandé à Allah de me donner telle chose, tel jour, en prononçant telle parole, et par Allah, il me l'a accordé. La personne se tenant près de celle qui vient de dire ou donner cette information, pense que le secret ne réside que dans les paroles qui ont été prononcées. Elle lui dit alors, et quelle est cette invocation que tu as prononcée? Je vais la prendre aussi. Elle se met alors à la prendre. Elle la récite plus de 1000 fois sans aucun résultat. D'où vient la nuance? Elle vient du fait qu'il ne suffit pas de prononcer des mots, mais qu'il faut accompagner à ces mots la compréhension, la servitude. Il faut développer le cœur pendant que ces mots sont prononcés. Et c'est là que toute la différence se fait entre l'un et l'autre qui pourtant prononcent les mêmes paroles pour solliciter Allah,
subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimallah nous dit « ثُمَّ قَالْ نَعْصِيَتِ بِيَدِكَ » Dans la vocation, nous disons ensuite « Mon toupet est dans ta main ». Le toupet, c'est le front, c'est le haut de la tête. Et cela est une allusion au fait que nous sommes faibles sous la domination d'Allah, au point où notre toupet est dans la main d'Allah, c'est-à-dire qu'il fait de nous ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala.
Ay anta al-mutasarrif fi nam fiya tusarrifuni kayfa tasha lastu ana al-mutasarrif fi nafsi.
C'est toi en réalité qui agis comme bon te semble envers moi, qui fais de moi ce que tu veux. Ce n'est pas moi qui agis envers moi-même.
Allahu Akbar.
Lorsque vous me voyez lever la main de cette façon, vous voyez que je fais le geste, n'est-ce pas? La réalité, c'est que je n'ai pu le faire que parce qu'Allah me l'a permis.
Subhanahu wa ta'ala.
Ainsi, tout revient à Allah. Nous avons certes le libre arbitre. J'ai choisi de faire ce geste. Mais Allah m'a permis de le choisir et m'a ensuite permis de le faire. Et il a accepté et l'a décrété.
Subhanahu wa ta'ala. وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده.
Comment le serviteur pourrait-il avoir un quelconque agissement indépendant de son serviteur alors qu'il est assujetti à sa seigneurie, alors qu'il en dépend, alors que son toupet est dans sa main,
subhanahu wa ta'ala. وقلبه بين اصبعين من اصابعه.
Son cœur est entre deux de ses doigts. Allah tabaraka wa ta'ala a des doigts dont nous ignorons le comment, mais nous y croyons, car ce sont des hadiths qui sont authentiques. Il nous est interdit formellement de chercher à définir le comment, ou d'interroger sur le comment, ou encore de changer le sens de ce qui a été voulu par Allah,
subhanahu wa ta'ala,
ou encore de croire qu'une créature puisse ressembler à Allah. Tout cela est nié. Mais nous affirmons ce qu'il a affirmé, comme il l'a affirmé et comme il l'a voulu. Nous y croyons sans polémiquer ni renier. Le cœur du serviteur est entre deux des doigts d'Allah.
وَمَوْتُهُ وَحَيَاتُهُ وَسَعَادَتُهُ وَشَقَاوَتُهُ وَعَافِيَتُهُ وَبَلَاؤُهُ كُلُّهُ إِلَيْهِ.
Sa mort, la mort du serviteur, sa vie, sa joie, sa tristesse, son salut, ses épreuves et difficultés, tout cela revient à lui,
à Allah subhanahu wa ta'ala. لَيْسَ إِلَى الْعَبْدِ مِنْهُ شَيْءٍ.
Dans cela, le serviteur n'a rien du tout.
بَلْ هُوَ فِي قَبْضَةِ سَيِّدِهِ أَضْعَفُ مِنْ مَمْلُوكٍ ضَعِيفٍ حَقِيرٍ نَاصِيَتُهُ بِيَدِ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ.
Il est, en réalité, ce serviteur, sous l'emprise de son maître, plus faible que ne l'est un faible serviteur dominé par le dirigeant ou dominé par le tyran. Voyez comment est l'esclave humain lorsqu'il est dirigé par le tyran, dominé, attaché, il ne peut rien faire. Envers Allah Azza wa Jal, le serviteur est encore plus que cela.
مَالُكَ لَهُ مَالِكٌ لَهُ تحت تصرفه وقهره بل الأمر فوق ذلك ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء.
Dès lors que le serviteur se rend compte que son toupet et le toupet de tous les serviteurs sont dans la main d'Allah seul, il en fait ce qu'il veut. Pour lui et pour les serviteurs, لَمْ يَخَفْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ. Il ne les craindra plus après cela. Il ne craindra plus les gens ou les serviteurs après cela.
وَلَمْ يَرْجُهُمْ.
Il n'espérera d'eux absolument rien.
وَلَمْ يُنْزِلْهُمْ مَنْزِلَةَ الْمَالِكِينَ.
Il ne leur donnera pas le statut des possesseurs.
بَلْ مَنْزِلَةَ عَبِيدٍ مَقْهُورِينَ مَرْبُوبِينَ.
Mais plutôt, c'est le statut des esclaves dominés, possédé, qu'il leur donnera. Il sait que tout est dans la main d'Allah. Azza wa Jal, et pas dans la main de ces gens qui eux-mêmes et tout ce qu'ils possèdent et tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils ne font pas, tout ça c'est dans la main d'Allah. Autant demander à Allah subhanahu wa ta'ala et s'en remettre à lui.
Al-mutasarrifu fihim siwahum wal-mudabbiru lahum ghayruhum.
Ibn al-Qayyim rahimallah nous dit: celui qui agit en eux, c'est autre qu'eux. Celui qui les gère, c'est autre qu'eux-mêmes. En tout ce qu'ils font, en vérité, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le décrète, qui le choisit, qui le veut, qui l'accepte, qui le décide. Ils sont donc serviteurs d'Allah azza wa jal.
فَمَنْ شَهِدَ نَفْسَهُ بِهَذَا الْمَشْهَدِ.
Quiconque se voit dans cet état-là,
صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له.
Sa pauvreté, son indigence, son besoin nécessaire de son serviteur deviendront une caractéristique qui ne se détache plus de lui. Il deviendra constamment quelqu'un qui sait qui il est, un esclave d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
وَمَتَى شَهِدَ النَّاسَ كَذَلِكَ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَيْهِمْ.
Et chaque fois qu'il voit les gens de ce point de vue-là, qu'ils sont faibles, serviteurs d'Allah, esclaves d'Allah, dans le besoin d'Allah, sous l'ordre d'Allah, sous la décision d'Allah, ils ne peuvent rien faire qu'Allah ne décide pas, ils ne peuvent rien empêcher de ce qu'Allah décide, eh bien, il ne sentira plus aucun besoin de ces gens.
وَلَمْ يُعَلِّقْ أَمَلَهُ وَرَجَاءَهُ بِهِمْ.
Il n'attachera donc plus aucun espoir ni souhait à eux.
فَاسْتَقَامَ تَوْحِيدُهُ وَتَوَكُّلُهُ وَعُبُودِيَّتُهُ.
Dès lors, son tawhid, son monothéisme, sa reconnaissance de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sera correcte et droite. De même, sa confiance en Allah et sa servitude.
وَلِهَذَا قَالَ هُودٌ لِقَوْمِهِ.
Pour cette raison, le prophète Hud a dit à son peuple:
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ.
Je place toute ma confiance en Allah, mon Seigneur et votre Seigneur.
مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا.
Il n'est pas une seule espèce marchante, homme ou animal, sans que son toupet soit dans sa main.
إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
Certes, mon Seigneur est dans une voie droite. Allahu Akbar.
وَقَوْلُهُ مَاضٍ فِيَ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَ قَضَاءُكَ.
Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette invocation, lorsqu'il dit: ton jugement est passé sur moi, ton décret est une justice pleine me concernant.
تَضَمَّنَ هَذَا الْكَلَامُ أَمْرَيْنِ.
Ce propos, cette parole, contient deux choses.
أَحَدُهُمَا مَضَى مَضَاءُ حُكْمِهِ فِي عَبْدِهِ وَالثَّانِي يَتَضَمَّنُ حَمْدَهُ وَعَدْلَهُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ.
La première chose, c'est que le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala est passé sur son serviteur. Allah a décidé, il a jugé que telle ou telle chose devait ou ne devait pas t'arriver. Tu ne peux rien faire. Et la deuxième chose, ce qu'il a décidé te concernant, c'est juste. Allah n'opprime ni ne lèse aucun de ses serviteurs, Azza wa Jal. Cela nous montre la justice d'Allah, la royauté d'Allah et qu'il est digne de louange.
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ نَبِيِّهِ هُودٍ.
Et c'est le sens de la parole de son prophète Hud quand il dit:
مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا.
Il n'est pas une seule espèce marchante, دَابَّة, une créature qui marche, ça peut être l'homme ou l'animal, quatre pattes, deux pattes, le serpent sur le ventre, rampante, etc. Il n'est pas une seule espèce marchante sans que son toupet ne soit dans sa main.
ثم قال, et à la fin il dit,
إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Certes, mon Seigneur est sur une voie droite, c'est-à-dire
أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده. نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم.
avec le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est possesseur, dominateur, il gère ses serviteurs, leur toupet est dans sa main, il est dans un chemin droit, dans le sens où il ne va pas leur faire d'injustice parce qu'il les possède, parce qu'il les domine. Il est dans un chemin droit, subhanahu wa ta'ala, ce chemin droit, wa huwa al-'adl alladhi yatasarrafu bihi fihim fa huwa 'ala siratin mustaqim. C'est la justice par laquelle Allah se conduit envers ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Il est donc dans un droit chemin dans ce point de vue-là. Fi qawlihi, dans ses paroles, subhanahu wa ta'ala, wa fi'lihi, dans ses actions, wa qada'ihi wa qadarihi, dans son décret, sa décision, wa amrihi wa nahyihi, son ordre et son interdit, wa thawabihi wa 'iqabihi, sa récompense ou son châtiment, fa khabaruhu kulluhu sidq, wa qada'uhu kulluhu 'adl. Toutes les informations émanant d'Allah sont véridiques. Tous les décrets venant de lui sont justes. Wa amruhu kulluhu maslaha. Tous ses ordres sont un intérêt. Wa alladhi naha 'anhu kulluhu mafsada. Et tout ce qu'il a interdit est un préjudice. Wa thawabuhu liman yastahiqqu ath-thawaba bi fadlihi wa rahmatihi. Wa 'iqabuhu liman yastahiqqu al-'iqaba bi 'adlihi wa hikmatihi. La récompense qu'il donne à son serviteur qui mérite d'être récompensé, il ne lui donne que par sa grâce et sa miséricorde. Et le châtiment qu'il inflige à celui qui mérite d'être châtié, il ne lui inflige ce châtiment que par justice et sagesse. Ça, c'est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Aucun d'entre nous ne peut entrer au paradis de par les actions qu'il a, de par les bonnes actions qu'il a pu faire dans sa vie. Car les bonnes actions que nous faisons dans notre vie sont totalement insuffisantes pour nous donner l'accès au paradis. Seulement, elles sont une cause pour gagner la miséricorde d'Allah Azza wa Jal par laquelle nous entrons au paradis. C'est donc en œuvrant qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a pitié de nous. Et c'est par pitié pour nous qu'il nous fait entrer au paradis, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fera entrer au paradis, Allahumma atrinna jannatak. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal châtie un serviteur, il ne le châtie pas injustement. Il ne le fait que par justice et sagesse. Il sait que ce serviteur devait être châtié. Subhanallah. C'est ce que l'on appelle al-asma' wa sifat wal-kamal alladhi fi asma'illahi wa sifati. C'est la perfection absolu contenu dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa farraqa bayna al-hukm wa al-qada wa ja'ala al-mada'a lil-hukm wa al-'adl lil-qada fa inna hukmahu subhanahu yatanawalu hukmahu ad-diniyya ash-shar'i wa hukmahu al-kawniyya al-qadari wa an-naw'ani nafidhan fi al-'abd madiyan fihi wa huwa maqhurun tahta al-hukmayn قد مضي فيه ونفذ فيه شاء أم أبا لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. Puis le prophète عليه الصلاة والسلام a différencié deux choses dans ce récit, dans cette invocation. La première étant le jugement. Lorsqu'il dit مرض في حكمك, ton jugement est passé sur moi. La seconde, le décret. Al-Qada. Ce qui est voulu par les jugements, par le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont deux choses. Le jugement d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est de deux sortes. Le premier est celui que l'on appelle le jugement religieux. Ce sont donc les ordres et les interdits d'Allah, qui représentent le ou les jugements d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, c'est le jugement en relation avec le destin. Quand Allah Azza wa Jal a jugé que je devais naître à telle date, pendant qu'un tel devait mourir à cette même date. Ça, c'est le jugement en relation avec le décret. Al-hukmu al-qadari. En rapport avec le décret. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam nous enseigne de dire madin fiya hukmuk, ton jugement est passé sur moi, nous parlons des deux jugements. ton jugement religieux relatif aux ordres et aux interdits, et ton jugement relatif aux décrets, à ta décision de ce qu'il adviendra de nous ou non. Tout cela est passé sur moi. Qu'on le veuille ou non. Cependant, il y a une différence, c'est que le jugement relatif au décret est inévitable. Quant au jugement relatif aux ordres et aux interdits, il peut être contredit par le serviteur. Allah Azza wa Jalla a jugé que tu dois accomplir 5 prières et pourtant tous les gens n'accomplissent pas 5 prières par jour. Ces gens-là ont donc contredit le jugement religieux d'Allah. Et dans le jugement relatif au destin, Allah Tabaraka wa Ta'ala a décrété qu'il arrivera telle et telle chose à telle et telle personne, là c'est inévitable. Et la personne ne peut pas contredire cela. وَلَمَّا كَانَ الْقَضَاءُ هُوَ الْإِتْمَامُ وَالْإِكْمَالُ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّهِ وَنُفُوذِهِ قَالَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ. عليكم السلام. Quant à ce que l'on appelle al-qada, c'est lorsque cette chose a existé. Allah Azza wa Jalla a jugé. Il a décrété que demain, telle et telle chose vont arriver. On appelle ça al-hukm al-qadari, le jugement relatif au décret. Lorsque cette chose s'est produite, on appelle ça al-qada, la décision qui s'est produite. Donc lorsque ça se produit, on va appeler cela al-qada. C'est ça aussi la différence entre les deux termes, al-qada ou al-qadar, qui sont souvent traduits par le destin, mais ce sont en réalité deux termes. Lorsqu'ils sont réunis, chacun va prendre un sens. Ce qui sera voulu par al-qadar, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé et décrété. Ce qui va être voulu par al-qada, c'est cette chose qui a été décidée, qui s'est faite, lorsqu'elle s'est faite. J'espère être clair. L'imam ibn al-Qayyim rahimahullah dit: قَالَ عَدْلٌ فِيَ قَضَاءُكَ أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عَدْلٌ مِنْكَ. Ton jugement est toute justice me concernant, c'est-à-dire ton décret me concernant est justice, c'est-à-dire le jugement relatif au décret que tu as décidé, lorsqu'il m'est arrivé, lorsqu'il m'a atteint, il ne m'a atteint que par justice. وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه وإن لم ينفذه إن دفع عنه فهو سبحانه يقضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه. الله عز وجل pour résumer décide quelque chose et s'il choisit de faire que cette chose se produise, elle se produira inévitablement, alors que les autres, les serviteurs, ils peuvent décider, mais ils ne peuvent pas forcément, ils ne sont pas forcément dans la capacité de faire que cette chose se produira. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَقْضِي وَيُمْضِي فَلَهُ الْقَضَاءُ وَالْإِمْضَى. Allah décrète et fait passer ce qu'il a décrété. Il fait que cette chose se produise. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Alors que le serviteur, il décide, mais il n'est pas sûr de pouvoir le faire, se produire ce qu'il a décidé. وَقَوْلُهُ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ يَتَضَمَّنُ جَمِيعَ أَقْضِيَتِهِ فِي عَبْدِهِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ. Et cette parole contient toutes les décisions d'Allah sur son serviteur de tous les points de vue. مِنْ صِحَّةٍ وَسُقْمٍ وَغِنًا وَفَقْرٍ وَلَذَّةٍ وَأَلَمٍ وَحَيَاةٍ وَمَوْتٍ وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. Lorsque on dit qu'Allah Azza wa Jal son décret, akhi ne t'assois pas comme ça, barakallahu fik, tu es dans un dars. Lorsque on dit adlun fiya qada'uk, ton décret me concernant est une justice, toutes les décisions d'Allah en rapport avec la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, le délice, la douleur, la vie, la mort, le châtiment, le pardon et autres. قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Dans le sens du verset. Il n'est pas un malheur qui vous touche sans qu'il ne résulte de ce que vos mains ont avancé.
اللهم اغفر لنا.
وقال وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Dans le sens du verset. Et si un malheur les atteint à cause d'un péché que leurs mains ont avancé, certes l'homme est très ingrat.
Allahu Akbar.
فَكُلُّ مَا يَقْضِي عَلَى الْعَبْدِ فَهُوَ عَدْلٌ فِيهِ. Tout ce qu'il décide, subhanahu wa ta'ala, sur son serviteur est une justice. فَإِنْ قِيلَ فَالْمَعْصِيَةُ عِنْدَكُمْ بِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ فَمَا وَجْهُ الْعَدْلِ فِي قَضَائِهَا. Si quelqu'un dirait, ça c'est la profondeur de la science d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Si quelqu'un dirait, d'après vous, la désobéissance faite par le serviteur est en relation avec son décret, ce qu'il a décidé, décrété. En quoi dites-vous alors que c'est de la justice? Parce que vous dites, عَدْلٌ فِيَ قَضَاءُكَ. Ton décret me concernant est une justice. Et vous savez qu'Allah a interdit ce péché. Mais vous dites qu'il relève du décret d'Allah. Puis vous dites du décret d'Allah qu'il est juste. Vous voyez? Alors qu'en réalité, c'est la parole de quelqu'un qui ne connaît pas Allah. Ibn al-Qayyim va répondre en disant, فَإِنَّ الْعَدْلَ فِي الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا ظَاهِرٌ قِيلْ هَذَا سُؤَالٌ لَهُ شَأْنٌ وَمِنْ أَجْلِهِ زَعِمَ الطَّائِفَةٌ أَنَّ الْعَدْلَ هُوَ الْمَقْدُورُ والظلم ممتنع لذاته قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير والله له كل شيء فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا وقال الطائفة بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره فلما حسن منه العقوبة على الذنب بالعقوبة والذنب إما في الدنيا وإما في الآخرة وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر.
Quoi qu'il en soit, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah s'étale ici sur des questions de croyance en relation avec le destin. Et il nous dit que si la personne dit, vous dites de la désobéissance qu'elle relève du décret d'Allah, puis vous dites que le décret d'Allah est juste, alors que la désobéissance est une injustice. Comment se fait-il? Puis il va développer, rahimahullah ta'ala, je regarde un peu la longueur de sa parole. Nous allons lire Nasta'inu Billah. Donc, la personne qui émettrait cette objection, le Qayyim rahimallah dit, la personne dit, il est clair que c'est juste lorsque nous disons qu'Allah châtie pour le péché. Ça, c'est la justice. Comme celle disait, mais qu'en est-il de ce péché lui-même qui est décrété pour vous par Allah et que vous décrivez comme étant une justice? Il dit ça, c'est une question importante. À cause de laquelle différentes personnes, si on peut le dire de cette façon, ont dit que la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui a été décrété. J'essaie de voir comment je peux vous approcher ce qu'il dit de la meilleure façon, rahimahullah. هذا سؤال له شأن ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. Ils ont dit, certains ont dit, que tout ce qu'Allah a décrété, la chose qui a été décrétée par Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la justice. Et l'injustice n'existe pas dans ce qu'Allah a décrété. Ça va venir. Je pense que vous allez comprendre. De toute façon, je vous résumerai, inshallah. قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير. Ces gens-là ont dit,
Il en est ainsi car l'injustice, c'est de, si l'on peut dire de cette façon, porter atteinte à un bien que l'on ne possède pas. Mais Allah Azza wa Jalla est possesseur de toutes choses. Wallahu lahu kullu shay. Fala yakunu tasarrufuhu fi khalqihi illa adla. Ainsi, tout ce qu'il fait envers ses serviteurs ne peut être que justice. D'autres ont dit, wa qala ta'ifa, bal al-'adl annahu la yu'aqib 'ala ma qadahu wa qaddara. Ils ont dit, mais plutôt la justice, c'est qu'il ne châtie pas quelqu'un pour une chose que lui-même a décrétée. Subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا حَسُنَ مِنْهُ الْعُقُوبَةِ عَلَى الذَّنْبِ بِالْعُقُوبَةِ وَالذَّنْبِ إِمَّا فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا فِي الْآخِرَةِ وَصَعُبَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَدْلِ وَبَيْنَ الْقَدَرِ فَزَعِمُوا أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ الْقَدَرَ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَقُولَ بِالْعَدْلِ. Résumé, certains ont dit que celui qui affirme la croyance au destin, il ne peut pas dire que la justice existe. Pourquoi? Il ne peut pas dire que la justice existe parce que si pour lui tout a été décrété, beaucoup de choses ne sont pas justes, donc la justice n'existe pas. Subhanallah. Vous allez comprendre la suite. وَمَنْ قَالَ بِالْعَدْلِ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَقُولَ بِالْقَدَرِ. Et ils disent aussi que celui qui dit que la justice existe, alors il ne peut pas reconnaître le destin. C'est-à-dire que pour eux, la conception de la justice implique forcément de ne pas croire au destin. Sinon, pour eux, ce qu'Allah décrète, c'est injuste. Subhanahu wa ta'ala. كَمَا صَعُبَ عَلَيْهِمْ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّوْحِيدِ وَإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ. Tout comme il a été dur pour ce genre de personnes d'unir entre l'unicité d'Allah Azza wa Jal et les noms et attributs d'Allah. Car pour eux, Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour certains, n'a pas plusieurs attributs. Car lui donner plusieurs attributs est comme décrire plusieurs divinités. Ils ont donc eu du mal à affirmer le tawhid tout en affirmant les noms. Pour eux, le tawhid, c'est de ne pas affirmer les noms. Et pour les autres, affirmer le qadar, c'est ne pas affirmer la justice. Et si on affirme la justice, c'est qu'il n'y a pas de qadar. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des compréhensions qui sont tout à fait erronées. فَزَعِمُوا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُمْ إِثْبَاتُ التَّوْحِيدِ إِلَّا بِإِنْكَارِ الصِّفَاتِ. Ils ont prétendu qu'il n'est pas possible d'affirmer l'unicité d'Allah sans rejeter les attributs, alors que ce sont des attributs qui sont les siens. فَصَرَ تَوْحِيدُهُمْ تَعْطِيلًا وَعَدْلُهُمْ تَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ. Ainsi, leur croyance au tawhid est devenue une négation des attributs d'Allah. Et la justice qu'ils conçoivent est devenue le fait de renier le destin. وَأَمَّا أَهْلُ السُنَّةِ فَهُمْ مُثْبِتُونَ لِلْأَمْرَيْنِ. Quant aux gens de la sunna, eux, ils affirment les deux choses. Qu'est-ce qu'ils affirment? وَالظُّلْمُ عِنْدَهُمْ. Quand je dis les deux choses, le tawhid, le qadar. وَالظُّلْمُ عِنْدَهُمْ هُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Les gens de la sunna définissent l'injustice comme le fait de poser une chose à une place qui n'est pas la sienne. كَتَعْذِيبِ الْمُطِيعِ. Comme le fait de châtier l'obéissant parmi les serviteurs d'Allah. وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Et celui qui n'a pas de péché. وَهَذَا قَدْ نَزَّهَ اللَّهُ نَفْسَهُ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ. Allah Azza wa Jal s'est déclaré exempt de tout ça dans son livre. Allah ne châtie pas quelqu'un qui lui obéit. Azza wa Jal. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَإِنْ أَضَلَّ مَنْ شَاءَ وَقَضَى بِالْمَعْصِيَةِ وَالْغَيِّ عَلَى مَنْ شَاءَ فَذَلِكَ مَحْضُ الْعَدْلِ فِيهِ لِأَنَّهُ وَضَعَ الْإِضْلَالَ وَالْخِذْلَانَ فِي مَوْضِعِهِ اللَّائِقِ بِهِ. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala décide d'égarer qui il veut et de décréter pour la personne qu'elle s'égarera, qu'elle lui désobéira, cela est de la justice parfaite. Pourquoi? Parce que la justice, c'est le fait de poser les choses à leur place, de faire les choses comme il se doit, comme il faut. Allah azza wa jalla fait tout ce qu'il faut, comme il faut. Eh bien, quand il a châtié celui qui mérite d'être châtié, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. C'est ça qu'on appelle la justice.
Subhanahu wa ta'ala. كيف ومن أسمائه الحسنى العدل الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق.
Comment pourrait-il en être autrement alors que parmi ses noms, Al-Adl, le juste, subhanahu wa ta'ala, celui dont toutes les actions, tous les jugements sont justes, corrects et vérité.
Wa huwa subhanahu qad adalla as-subul, qad awdaha afwan as-subul, wa arsala ar-rusul, wa anzala al-kutub.
Et Allah Azza wa Jal a montré la voie claire. Il a envoyé les messagers, il a fait descendre les livres.
Wa azaha al-ilal, wa makkana min asbab al-hidayati wa at-ta'a bil asma'i wal absari wal 'uqul. وهذا عدله ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله.
الله عز وجل a permis aux gens d'obtenir la guidée en mettant sur leur chemin les causes de la guidée par lui, par la vue, par le raisonnement. Ils peuvent voir la vérité, ils peuvent l'entendre, ils peuvent raisonner, chercher à comprendre la vérité. Et ça, c'est sa justice, subhanahu wa ta'ala. Puis, il a accordé son assistance à qui il a voulu, en prenant soin de lui parmi ses serviteurs, et en voulant l'aider. Et cela, c'est sa grâce.
وَخَذَلَ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِتَوْفِيقِهِ وَفَضْلِهِ فَخَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ وَلَمْ يُرِدْ سُبْحَانَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ يُوَفِّقَهُ فقطع عنه فضله ولم يرحمه ولم يحرمه عدله.
الله أكبر. Il a donc décidé d'aider qui il veut par sa grâce et il a décidé d'abandonner qui il veut, de ne pas accorder son assistance, sa grâce et d'éloigner de lui qui il veut, et tout en faisant ça, il ne l'a pas privé de sa justice.
Subhanahu wa ta'ala.
وهذان نوعان. Ce sont donc deux catégories.
أحدهما أن يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه.
Premièrement, ça peut être le résultat du détournement manifesté par le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه. وتناسى ذكره وشكره. فهو أهل أن يخذله.
Donc, ça peut être le résultat du fait que le serviteur s'est détourné d'Allah et a préféré son ennemi, à Shaytan, Iblis, a préféré obéir son ennemi, a préféré oublier le nom d'Allah, oublier la reconnaissance en Allah, alors Allah l'a abandonné.
Subhanahu wa ta'ala. والثاني أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبه فلا يشاءها له لعدم صلاحية محله.
Donc quand il égare quelqu'un, soit c'est parce que, comme nous l'avons dit, ce quelqu'un s'est détourné de lui, il a donc été abandonné par Allah, ou alors c'est quelqu'un qu'il connaît. Allah connaît toutes ses créatures et il sait
que ce serviteur-là, ne va pas reconnaître le bienfait d'Allah, ni se montrer reconnaissant. Alors il ne lui donne pas ce bienfait, qui est la guidée. Parce qu'il sait que ce serviteur-là, car il le connaît, il ne va pas être reconnaissant envers Allah.
Subhanahu wa ta'ala.
Qala ta'ala. Il dit dans le sens du verset, وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
Dans le sens des versets.
Et c'est ainsi que nous avons éprouvé certains par d'autres. Nous avons éprouvé certains parmi les gens par d'autres, afin que cela dise. Afin qu'ils disent, est-ce que cela, pour vous résumer le verset, afin qu'ils disent,
est-ce que ceux-là ont été gratifiés par Allah alors que nous sommes là? N'est-ce pas qu'il connaît les reconnaissants? Subhanahu wa ta'ala, Allah sait à qui donner ses bienfaits. Subhanahu wa ta'ala. Et dans le sens du verset, wa law alima Allahu fihim khayran la asma'ahum. Et si Allah avait su un bien en eux, il leur aurait fait écouter. Il les aurait fait entendre. Cela prouve que s'il ne les a pas fait entendre, les gens concernés, c'est bien parce qu'il sait qu'il n'y a pas de bien en eux. Et s'ils avaient entendu, ils n'auraient pas appliqué. Donc quand Allah Azza wa Jal abandonne un serviteur, c'est soit parce que ce serviteur s'est détourné de lui, soit parce qu'il connaît de ce serviteur qu'il n'y a pas de bien en lui, dans le sens où il ne va pas accepter. Et quand tu entends tout ça, ça te pousse à demander à Allah. C'est le résultat. An tas'al Allah azza wa jalla at-tawfiq, que tu demandes à Allah de l'assistance, de l'aide, car tu es dans le plus grand besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قَضَى عَلَى هَذِهِ النُّفُوسِ بِالطَّلَالِ وَالْمَعْصِيَةِ كَانَ ذَلِكَ مَحْضَ الْفَضْلِ مَحْضَ الْعَدْلِ. Si Allah décrète pour ces âmes-là l'égarement et le péché, ce ne sera alors que par justice, car comme vous venez de le comprendre, c'est soit parce que ces gens-là se sont détournés, alors Allah les a abandonnés, et quand il les a abandonnés, ils ont péché, soit parce qu'il sait qu'ils ne seront pas reconnaissants envers Allah. Subhanahu wa ta'ala, c'est donc une justice d'Allah. Kama idha qada 'ala al-hayyati bi an tuqtal wa 'ala al-aqrabi wa 'ala al-kalbi al-'aquri kana dhalika 'adlan fihi. Tout comme quand il a décrété de tuer le serpent ou le chien enragé ou le scorpion, c'est une justice venant de lui, subhanahu wa ta'ala. Wa in kana makhluqan 'ala hadhihi as-sifah faqad istawfayna al-kalam fi hadha fi kitabina al-kabir fi al-qada' wal-qadar. Et on a parlé de cela plus en détail dans notre grand livre. Il a un livre qu'il a écrit sur le destin. Et des fois les ulama, les savants, quand ils parlent de leur livre, ils font les éloges de leur livre. Il n'y a aucun problème dans ça. Ce n'est pas une thèse qui a une éloge qui est interdite, parce que le livre, il contient le Coran et la Sunna. Donc il ne peut être qu'un livre immense. Il répond à des ambiguïtés de fausses croyances. Il appelle à la croyance de l'islam. Pour ça que souvent, dans les livres des savants, tu vois, il décrit son propre livre comme étant un livre immense. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est un livre qui explique les versets du Coran et de la Sunna, et les hadiths de la Sunna, donc il n'y a pas de mal en cela. Puis, le prophète, l'Ibn al-Qayyim, pardon, rahimahullah, dit, وَالْمَقْصُودُ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكْ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكْ رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده ويخرجون أفعال العباد من عن كونها بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي وعلى الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل. Ce qui est voulu, c'est que cette parole, ton jugement est passé sur moi, ton décret est une justice me concernant. C'est une réfutation à ces deux sectes de l'égarement. La première, c'est Al-Qadariya. Al-Qadariya, ce sont ceux qui renient les décrets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et disent que les actions du serviteur sont indépendantes du décret d'Allah. Et ils disent que ce qui est voulu par Al-Qada, le décret, ce sont les ordres et les interdits d'Allah uniquement. Ils expliquent le destin comme étant la décision relative à la religion, les ordres et les interdits uniquement. Et les autres de l'autre extrême, que l'on appelle Al-Jabriya, qui eux affirment le destin, mais ils affirment le destin avec excès, et ils disent que nous sommes semblables à la feuille d'arbre qui est dirigée par le vent. C'est-à-dire que pour eux, nous n'avons même pas le libre arbitre. Ces deux extrêmes sont égarés, et au milieu, il y a Ahl-Sunna qui ont la bonne croyance au destin. Et ceux-là disent que tout ce qui est décrété par Allah, Azza wa Jal, est juste. فَلَا يَبْقَى لِقَوْلِهِ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكْ فَائِدَةً. Donc si c'était comme ils le disent, il n'y aurait aucun intérêt à dire « ton décret me concernant est juste ». Il n'y aurait aucun n'intérêt à le préciser. فَإِنَّ الْعَدْلَ عِنْدَهُمْ كُلُّ مَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ.
Parce que pour eux, la justice, c'est tout ce qui peut se faire. Pour eux, vu que nous sommes dépendants totalement, nous n'avons pas le libre arbitre, nous sommes sous le décret d'Allah, Azza wa Jal, totalement, et pour eux, tout ce qui se passe est forcément juste. Si Allah l'a voulu, c'est que c'est forcément juste. C'est faux. Allah tabaraka wa ta'ala peut décréter des choses qui en elles-mêmes ne sont pas des choses qui vont être justes, comme le péché qui se fait. Le péché en lui-même n'est pas quelque chose de juste, mais il le décrète pour une raison juste. Subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'ils ne comprennent pas.
Ibn al-Qayyim rahimahullah dit وَالظُّلْمْ هُوَ الْمُحَالُ لِذَاتِ.
Pour ce genre-là, al-Jabriya, l'injustice est impossible. C'est inexistant pour eux.
فَكَأَنَّهُ قَالْ مَاضٍ وَنَافِذْ فِيَّ قَضَاءُكْ وَهَذَا هُوَ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ وَقَوْلُهُ.
Puis, أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ. Puis dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam continue, après avoir reconnu qu'il est le serviteur d'Allah, le fils du serviteur d'Allah, le fils de la servante d'Allah, subhanahu wa ta'ala, après avoir reconnu la foi au destin, après avoir reconnu la foi en la décision d'Allah, il dit, As'aluka bi kulli ismin.
Je t'implore par tout nom qui est le tien, ou tous les noms qui sont les tiens.
Et vous remarquez ici que tout d'abord il va faire les éloges d'Allah, subhanahu wa ta'ala, oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon toupet est dans ta main, ton jugement est passé sur moi, ton décret me concernant est juste. Après avoir fait les éloges d'Allah, il passe à la demande. Et ça, c'est un adab. C'est un comportement à avoir quand on invoque Allah. De ne pas demander tout de suite, mais d'abord de faire les éloges d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, vous l'apprenez dans Surat al-Fatiha. Regardez. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu. Ces quatre phrases-là sont des éloges, où tu reconnais que toutes tes louanges sont à Allah, qu'il a la seigneurie absolue, qu'il est le maître du jour de la rétribution, que c'est lui qu'on adore. Et ensuite, on peut demander. Iyyaka nasta'in. C'est à toi seul que nous demandons l'aide, après avoir fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, As'aluka bi kulli ismin. Je t'implore par tout nom. Jusqu'à la fin, tout nom qui sont les tiens jusqu'à la fin.
إلى آخره توسل إليه بأسمائه كلها.
C'est ce que l'on appelle التوسل. التوسل, c'est extrêmement important dans le sujet de l'invocation et dans les noms et attributs d'Allah, Azza wa Jal. C'est le fait de chercher le moyen de solliciter Allah. Et il en existe trois qui sont légiférés. Trois moyens nous permettant de solliciter Allah via ces moyens-là. Ici, c'est tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifati. Solliciter Allah via le moyen de ses noms et attributs. En mentionnant ses noms, en l'invoquant par ses noms et par ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bi du'a ar-rajul as-salih. Al-hayy. Le fait de chercher à solliciter Allah subhanahu wa ta'ala en passant par l'invocation de quelqu'un qui est pieux, qui va invoquer Allah pour nous. Puis on va demander à Allah de répondre à son invocation. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a eu une sécheresse à un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite d'un bédouin habitant dans un désert éloigné. Il est venu et s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sécheresse. Le prophète alayhi salatu wa sallam a invoqué Allah. Que s'est-il passé? Le ciel était bleu,
En quelques instants, tous les nuages sont venus au-dessus de la ville de Médine. Une pluie torrentielle est tombée, à un point tel que on est passé de la sécheresse à l'inondation. Et la barbe était trempée. Et il a plu du vendredi au vendredi suivant. Au vendredi suivant, le bédouin est revenu et a dit « Ya Rasulallah ». Au début, il se plaignait de la sécheresse. Maintenant, il est venu se plaindre du fait que les végétations se sont noyées dans l'eau. Allah Akbar. Il s'est plaint de cela. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a levé ses mains et a demandé à Allah autour de nous et pas sur nous. Les villages se sont éloignés et se sont mis autour de la ville de Médine, les nuages, pardon, et la pluie est tombée autour de la ville et pas dans son intérieur. Quand le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une sécheresse. Les gens sont allés voir les sahabas et leur ont fait part de ce souci qui est la sécheresse et du besoin qu'ils avaient notamment de l'eau, de ce grand bienfait d'Allah qu'est l'eau pour faire pousser les plantes, pour le pâturage, pour les animaux, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont été à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander « Ya Rasulallah, al-Shafa'a, Ya Rasulallah, al-Matar, Ya Rasulallah, al-Shifa, abadan » Ils ont dit, est-ce qu'ils ont dit au messager d'Allah, donne-nous la pluie? Non. Qalu Allahumma kunna natawassalu ilayka bi rasulik. Oh Allah, autrefois, nous te sollicitions par l'intermédiaire de ton messager, c'est-à-dire quand il était vivant, nous lui demandions d'invoquer Allah. Et tu lui répondais. Wal an natawassalu ilayka bi ammi rasulik. Et maintenant, nous te sollicitons par l'intermédiaire de l'oncle de ton messager qui lui était encore vivant. C'est Omar ibn Khattab qui le dit, puis il dit « Qum ya al-Abbas, ô al-Abbas, lève-toi et invoque Allah. » Al-Abbas se lève, il demande à Allah, la pluie tombe. Allahu Akbar. Et ça c'est une preuve claire qu'on ne sollicite pas les morts. On sollicite le vivant. Et quand on sollicite le vivant, on ne le sollicite que dans ce qu'il est capable de faire. Si on demande la guérison à un vivant, on tombe dans le shirk, dans le polythéisme. Par contre, si on lui demande de demander la guérison d'Allah pour nous, alors il n'y a nul reproche à cela. Ainsi, lorsque l'on dit « As'aluka bi kulli ismin huwa lak »« Je t'implore par tous les noms qui sont les tiens », c'est « At-tawassul », le tawassul, la sollicitation d'Allah, par l'intermédiaire de la mention de ses noms et de ses attributs. مَا عَلِمَ الْعَبْدُ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَعْلَمْ Que ce soit les noms que le serviteur a connus ou ceux qu'il n'a pas connus. وَهَذِهِ أَحَبُّ الْوَسَائِلِ إِلَيْهِ فَإِنَّهَا وَسِيلَةٌ بِصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ C'est le meilleur tawassul. Retenez ce mot, il est important. Tawassul, retenez aussi celui-là, le wasila. C'est la même chose. C'est le moyen de solliciter Allah. Le meilleur moyen de solliciter Allah est la mention de ses noms, de ses attributs, de ses actions. Tu vas dire, oh Allah, donne-moi la subsistance, toi qui es le seul pourvoyeur. Guéris-moi, toi qui es le seul guérisseur. C'est le meilleur moyen d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si ça peut se faire avec les noms et les attributs d'Allah, comme ils sont en langue arabe et compris, Allahumma barik, c'est encore meilleur. Allati hiya madlulu asma'i. Ensuite, وقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. Puis lorsque l'on dit, je te demande par tous les noms qui sont les tiens. Avant de passer à cela, vous voyez que dans le hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit, أسألك بكل اسم هو لك. Je t'implore par tous les noms qui sont les tiens. سميت به نفسك, par lesquels tu t'es nommé. أو أنزلته في كتابك, ou que tu as fait descendre dans ton livre. أو علمته أحدا من خلقك, ou que tu as enseigné à une de tes créatures. أو استأثرت به في علم الغيب عندك, ou que tu as gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. Cette dernière phrase là est la preuve de ce que disent les gens de la sunna. C'est une règle dans les noms et les attributs d'Allah. أسماء الله غير محصورة بعدد. Les noms d'Allah ne sont pas délimité à un nombre. Les noms d'Allah Azza wa Jal sont bien plus que 99. Ce que pensent les gens lorsque le prophète alayhi salatu wa salam nous dit inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhala al-janna ahsaha ay hafidhaha fahimaha amila biha. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Allah a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les énumère entre au paradis. Quiconque les énumère, les savants ont dit, c'est-à-dire quiconque les apprend, les comprend et les applique. Et pas seulement comme on peut le voir, notamment chez certaines personnes qui ont avec eux des fascicules ou des feuillets dans lesquels vont être écrits 99 noms qu'ils vont apprendre par cœur et se dire « Alhamdoulilah, je les connais ». Ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est les apprendre, les comprendre, savoir en tirer les attributs, les comprendre et les appliquer ce qui en découle. La foi au nom d'Allah al-Basir, celui qui voit tout, implique que tu ne fasses pas ce qu'il n'aime pas voir de toi. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une application du nom d'Allah al-Basir. Et ainsi de suite. Donc, ce hadith-là, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit Allah a 99 noms, 100 moins 1. Est-ce que cela veut dire qu'il n'en a que 99? Non. Ce qui est voulu, nous dit l'imam ibn al-Qayyim, et nous l'explique le Sheikh ibn al-Uthaymin, rahimahullah, dans son livre intitulé Al-Qawa'id al-Muthla, les règles exemplaires dans les noms et attributs d'Allah. Ce qui est voulu est que parmi les noms d'Allah, il y en a 99. Lorsqu'ils sont appris, compris et appliqués, ils te font entrer au paradis. Puis le Sheikh ibn al-Uthaymin donne en exemple une personne qui dit « J'ai dans ma poche 100 dinars que j'ai préparés pour l'aumône. Cela veut-il dire que dans sa poche, il n'a que 100 dinars ? Pas forcément. Il peut en avoir 200, parmi lesquels 100 qu'il a décidé de donner en aumône. Ainsi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a 99 noms, qu'Allah azza wa jalla a 99 noms, 100 moins 1, c'est-à-dire que parmi tous ces noms, dont on ne connaît pas le nombre, il en a 99 jusqu'à la suite. Et une des preuves, c'est ce hadith que nous sommes en train d'étudier, où le prophète alayhi salatu wa sallam va implorer Allah par tous les noms qui sont les siens, par lesquels il s'est nommé, qu'il a enseigné à ses serviteurs, qu'il a révélé dans son livre, ou qu'il a gardé auprès de lui dans la science de l'inconnu. Ce sont donc des noms qu'on ne connaît pas. Également, dans le hadith connu sous le nom hadith al-Shafa'a, le hadith de l'intercession rapporté par al-Bukhari dans le chapitre Kitab al-Tawhid, le dernier chapitre de al-Bukhari, rapporté par Anas ibn Malik, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam va se prosterner sous le trône d'Allah et se mettre à l'invoquer en prononçant des éloges qu'il ne connaissait pas dans la vie d'ici-bas, mais qu'Allah va lui inspirer. Donc il va lui inspirer des noms, des attributs qu'il ne connaissait pas. Alayhi salatu wassalam. Ainsi, on passe le sujet des noms et des attributs. Ou alors, on va, inshallah, s'arrêter ici. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On continuera, bien entendu, la page qui nous reste demain, inshallah.